Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le premier invité a été un des plus rapides à me répondre quand j'ai fait un appel à histoire sur Instagram, il y a quelques mois de ça. Et quand il m'a raconté son histoire de maison de famille, je me suis dit que ce serait parfait pour l'intro de cette veillée spéciale Halloween. Merci d'applaudir, c'est Vague.
Bonsoir tout le monde, j'ai l'immense honneur d'ouvrir les festivités de cette veillée qui a l'air et qui promet d'être assez effrayante. Donc je vais commencer par vous raconter mon histoire et on va commencer par poser le décor. Le décor, c'est une maison en banlieue parisienne dans les années 2000. Moi et ma famille, donc on est d'origine arménienne et ma grand-mère était en recherche d'une maison pour vivre, donc en location. Et ma tante connaissait une amie à elle qui avait proposé, suite à un décès dans sa famille et une histoire d'héritage, avait décidé de faire louer sa maison. Donc, cela tombait parfaitement bien pour notre famille. Et donc, du coup, l'histoire commence avec l'emménagement de ma grand-mère, de mes deux tantes, dans cette grande maison qui était en banlieue parisienne. Quelques temps après, donc, peut-être quelques semaines après l'emménagement, on est une grande famille, on est pas mal de cousins, pas mal de cousines, pas mal d'oncles et tantes, grande famille arménienne, et donc du coup on s'est tous retrouvés dans cette maison-là, il y avait pas mal de dîners, de déjeuners, on dormait, nous les petits on dormait, j'avais 12-13 ans quand l'histoire s'est passée, et ça a commencé avec un premier événement qui a touché mon oncle, qui donc un soir dormait et s'est réveillé en pleine nuit en se disant qu'il en terreur et avec une pression sur le torse, donc tous les symptômes après tout d'une terreur nocturne, et ça l'avait vraiment chamboulé parce que le matin au petit déjeuner il en avait parlé à toute la famille, c'était bizarre, c'était arrivé, ça lui était jamais arrivé, donc du coup il a commencé à consulter un médecin, c'était peut-être dû à, il c'était un fumeur, peut-être dû à la cigarette, enfin bref, et donc du coup ce qui s'est passé c'est que on a un peu terré cet événement-là et les semaines et les jours sont passés. Puis c'était un vendeur de tapis, voilà. Et du coup, il a ramené un soir après le boulot, il est venu donc dans la maison-là. Il a ramené son tapis qui était bien sûr entreposé dans la cave et qui donc du coup était déplié totalement. Et puis le lendemain matin, la nuit se passe sans trop d'incidents et puis quand il descend pour récupérer son tapis pour repartir donc sur son lieu de travail, il se rend compte que le tapis était du coup enroulé. Deuxième événement, un peu bizarre, il ne comprend pas, ça lui arrive à lui. Il avait eu cette terreur nocturne il y a quelque temps. Là, il y a ce coup du tapis-là. Deux événements qui arrivent à un intervalle un peu serré, un peu rapproché. Et donc, du coup, il se pose la question de est-ce que il en parle autour de nous, il en parle à la grand-mère, alors sachant que nous, on est arménien, on est une famille très croyante, c'est important. Et donc, du coup, il se passe que mon oncle commence à raconter ça à nous, à nos petits cousins, à ses petits neveux et ses nièces, pour nous faire un peu peur, pour nous mettre, je sais pas, il y avait ce côté un peu malsain, je pense. Mais du coup, trois semaines après, tous les événements se sont passés sur une durée de un mois et demi, voire deux mois. Et du coup, quelques semaines après ce deuxième événement-là, on avait une petite, ma grande cousine, plutôt la plus grande, qui était un peu réservée, très dans son monde à elle. Je dirais pas qu'elle était, elle avait un spectre de l'autisme, mais c'était quelqu'un qui était vraiment dans son monde à elle. Et donc, du coup, elle avait, comme c'était la plus grande, elle dormait dans une des chambres en particulier. Et puis, Peut-être quelques semaines après les terreurs, entre guillemets, les terreurs nocturnes de mon oncle, elle en a subi une première où elle n'a pas dormi. Elle a réveillé ma tante, elle nous avait réveillés. Moi, à l'époque, je dormais. C'était le premier événement où je l'ai vraiment vécu. J'étais dans la chambre à côté avec mon cousin et on l'a entendu se réveiller la nuit, un peu en panique, en criant. On s'est dit que c'était un mauvais cauchemar. Elle s'est rendormie, ma tante l'a calmée, elle s'est rendormie, ma grand-mère aussi. Et tout s'est bien passé. Le lendemain, elle a recommencé à ramener le sujet, on était en vacances. Hein. Du coup, elle a ramené ce sujet un peu sur la table. J'ai eu une terreur, j'ai plus envie de dormir dans cette chambre. Elle se sentait pas bien, elle était jeune, elle devait avoir 15 ans à l'époque. Et donc, du coup, une nuit, la deuxième nuit se passe, très calme, rien à signaler, puis une troisième nuit. Et au bout de quelques jours, elle refait une crise, un épisode où elle stresse énormément. Elle se réveille en criant, elle se sent pas bien. Et là, elle décrit, donc du coup, quand ma tante essaie de la calmer, elle décrit un des symptômes que mon oncle avait eu, donc cette vraiment pression sur le torse. Et donc, qui ressemble encore une fois à ce qu'on appelle une terreur nocturne, un cauchemar. Et effectivement, quand mon oncle entend qu'elle énonce ce symptôme en particulier, ça fait tilt quelque part. Puis, pas d'incident pendant quelques temps. Et on va dire un petit mois après, de nouveau, encore elle, une crise, comme si le sort s'acharnait sur elle. Une deuxième crise. Et là, elle raconte en détail ce qu'elle a vu. Elle raconte qu'il y avait un homme dans la chambre qui la fixait. Donc elle décrit cet homme qui était vêtu d'une sorte d'habit de pêche, un peu avec une longue parka imperméable, avec une longue barbe, qui avait l'air fatigué, mais juste qui ne bougeait pas, qui la fixait. Et elle avait surtout notifié cette petite odeur de iode, de sel, de mer, en fait. Et du coup, ça, encore une fois, nous, elle était quand même dans son monde et on s'est dit, bon, bah, c'est juste une mauvaise passe, c'est juste quelque chose qui lui arrive, il y a forcément une petite explication scientifique. Et puis, ma grand-mère continuait à la rassurer en lui disant qu'elle avait fait tout le nécessaire, etc. Et puis, je vais arriver sur le dernier événement avant l'événement final qui va conclure l'histoire et qui m'est arrivé directement à moi et à mon cousin. C'était un soir d'été, hein. Ça s'est passé durant les grandes vacances en été. Et c'était un soir d'été, on se baladait dans cette maison-là. Il faisait nuit, on va se coucher. Et puis dans la nuit, voilà, j'avais bu un peu trop d'eau avant, je me lève et je descends. Mon cousin se lève en même temps que moi, il n'arrivait pas à dormir. Et bah, on décide en tant que gamin un peu turbulent de descendre et s'amuser un peu dans la maison, dans le salon. Moi, je descends, je vais aux toilettes. Lui, il reste dans le salon. Et puis, en sortant, on met la télé, on regarde des programmes qu'on ne devait pas regarder. Il nous arrive plein de petites histoires. Et puis, au moment de se dire, bon, bah, c'est bon, on arrête, on va se coucher quand même, on va se redormir, on ne veut pas être pris. En montant les escaliers, on entend un bruit. Une sorte de bruit sourd et surtout ce qui m'avait vraiment marqué c'est cette odeur de, encore une fois de mer, de iode, de sel et on est passé donc, sans trop prêter d'attention à cette histoire, mais c'était quand même un peu bizarre parce que c'était ce que notre grande cousine qui était donc du coup âgée et qui avait vraiment pour nous la maturité que nous on n'avait pas, la plus rationnelle. On va se coucher un peu avec une petite boule au ventre, mais la nuit passe et tout se passe bien. Jusqu'au jour où ma tante, donc du coup on a vu cette maison grâce à son ami. Et ma tante décide d'accompagner son ami chez le notaire pour une histoire de décès donc, et d'héritage. Et donc du coup, bah, elle avait besoin d'aide pour l'accompagner, effectivement pour les affaires, etc. Elle rentre du notaire, de cet événement-là avec son amie, elle rentre du notaire livide, pas bien. Elle, elle était vraiment quelque chose, elle, comme si elle avait littéralement vu un fantôme. Elle était vraiment pas bien. Et à partir de ce moment-là, nous, on était enfants, donc on n'a pas trop entendu les discussions. On a juste vu le stress que ça avait sur toute la famille. Donc sur les figures un peu rationnelles, mes oncles, ma grand-mère, mes parents, et ça nous stressait. Moi, ça m'avait mis une grosse pression, parce que c'est vrai que c'est, voilà, c'est quand t'es jeune, tu te dis bah c'est eux qui sont rationnels. Si eux ils commencent à paniquer, c'est qu'il y a un vrai problème. Et donc du coup, plus tard, on a appris que c'est une histoire qu'on a tenue, surtout que ma cousine n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, mais on a appris que lors de cet événement au notaire, le notaire en question a donné plusieurs documents et plusieurs, on va dire, meubles, babioles à l'ami de ma tante. Et parmi tous les objets qu'on lui a donné, il y avait une photo de famille de l'ami de ma tante. Et ma tante, en prenant cette photo, a bloqué, car elle a reconnu sur la photo la personne que ma grande cousine décrivait. Donc, elle a vraiment bloqué en disant bah, c'est quand même curieux. Cet homme, j'ai l'impression de le connaître. Je ne sais pas d'où je l'ai vu. Je ne sais pas où je l'ai rencontré. Et en fait, après, elle lui a expliqué qu'en fait, il y a eu quelques petits événements qui sont passés, qui étaient anodins et qui avaient qui pouvaient avoir une explication scientifique. Mais elle, dans la description de ma cousine, c'était quand même extrêmement précis. À ce moment-là, l'ami de ma tante lui explique qu'en fait, cette personne-là, effectivement, c'était son grand-père. Et son grand-père, suite à une dépression qu'il avait eue depuis quelques années, surtout depuis qu'il était à la retraite, était pêcheur. Va aimer la pêche et partait beaucoup en pêche, et que suite à une dépression, il s'est donné la mort en prenant des médicaments et de l'alcool dans cette chambre en particulier. Donc voilà, quand on est rentré, peu de temps après cette révélation, autant vous dire que ma grand-mère a quitté la maison, toute la famille a quitté la maison, on a tout donné, et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a quand même terré, c'est une histoire qu'on a terré, c'est une histoire qui touche énormément ma grand-mère, qui voilà, c'est une personne très religieuse. Donc, on n'en a jamais parlé avec ma grande cousine. C'était son mariage l'été dernier et c'est la première fois qu'on en a... Bon, elle a 35 ans. Et même là encore, il y a quelque chose qui fait... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai eu du mal. C'est vrai que c'est une coïncidence qui est quand même très surprenante. Mais voilà, c'était la petite histoire, la première histoire de cette veillée-là. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.